Salut les smarts et salut les marks, bienvenue sur Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Alors d'habitude, on regarde, on résume, on analyse les shows de la WWE, mais aujourd'hui, eh bien, on va faire différemment, on va parler de quoi mon cher Ringside?
La New Japan Pro Wrestling.
Exactement.
La Fédération Lyon.
Ouais, Rao fait le lion, donc ouais, on va vous parler de la New Japan Pro Wrestling, hein, la première fédération de catch japonaise et la numéro 2 mondiale après la WWE. Alors pourquoi on en parle? En fait, il y a à peu près un an, Ringside justement, dans le chat de la rédac des cahiers du catch, commençait à nous teaser un peu à propos de Wrestle Kingdom, hein, 11, Wrestle Kingdom 11 qui allait arriver en nous postant des petites vidéos, ah ça va être trop bien ce match, et on a été quelques-uns, dont moi, à regarder un peu à quoi ça ressemblait, alors qu'on avait, moi j'avais pas trop regardé précédemment le catch japonais, et j'ai bien teasé et j'ai maté ce gros show en janvier dernier, et j'ai trouvé ça excellent, bien entendu, hein, même au-delà du fameux match 6 étoiles pour la première fois de l'histoire que Dave Meltzer a donné à Okada versus Omega. Et donc du coup, bah, cette année on a aussi teasé parce que Wrestle Kingdom 12 va arriver en janvier et on se dit que peut-être que vous, chers amis qui regardez le catch, qui regardez Catch Up, bah, vous aimeriez bien regarder aussi New Japan, mais comme c'est quand même très différent, c'est japonais, c'est pas les mêmes codes que la WWE, c'est pas forcément accessible et vous avez pas forcément un pote comme Ringside qui va vous expliquer ce que c'est New Japan. D'où l'idée de faire une petite série de vidéos pour vous donner les clés de compréhension, les codes, qu'est-ce qui fait la différence et la spécificité de la New Japan par rapport au reste. Donc aujourd'hui, une vidéo où on va parler de l'histoire et un peu les ceintures, le système de clans, etc. Un peu tous les codes de la New Japan. On fera une autre vidéo vers fin décembre. On prendra donc toute la carte du Wrestle Kingdom 12 qu'on passera effectivement dans le viseur pour vous dire qui sont les stars, quels sont les enjeux, quels sont les storylines pour que vous ayez tous les éléments pour profiter de ce méga show gigantesque. Et enfin, une troisième vidéo où on fera l'analyse de Wrestle Kingdom 12. Donc voilà un petit peu le programme nippon qu'on vous réserve. Donc on revient aujourd'hui. Keizako, la New Japan Pro Wrestling, s'il te plaît, Dozo, Ringside Sensei, arigato gozaimasu.
Merci pour cette fabuleuse présentation, mon bon amiral. Oui, alors, je mets l'accent quand même sur le fait que si on vous parle de la New Japan aussi, c'est parce qu'ils ont fait une année exceptionnelle, hein, 2017. C'était vraiment du très très haut niveau. Moi, je suis régulièrement la New Japan depuis 2015. J'ai commencé par le G1 Climax, le plus gros tournoi. On en reparlera. Hein. Je ferai un passage sur les tournois. Et depuis, ça a été que croissant. Et effectivement, cette année, on a eu des matchs exceptionnels. On va faire le bilan de la WWE au niveau de catch-up. Ouais. Là, en fin d'année, on vous fera une petite émission bilan, les tops, les flops. On verra que ça n'a pas été non plus une année transcendante pour la WWE, je pense, hein, que on pourra se mettre d'accord là-dessus. Par contre, sur le catch dans le monde, ça a été l'explosion, et en particulier à la New Japan qui a vraiment fait une année, j'aime dire, exceptionnelle. Alors, la New Japan, qu'est-ce que c'est? La New Japan, c'est effectivement, comme l'a dit l'amiral, la plus grosse fédération japonaise, la plus ancienne aussi. Ça date de 1972, la création par le légendaire Antonio Inoki, hein, qui est Hall of Famer de la WWE aussi, hein, tant qu'on y est. Ouais. Fameux pour son match contre Mohamed Ali, rien que ça. Un match qui était du shoot, hein, c'était du la vraie combat. Mohamed ouais. Ali, toute sa clique n'a pas voulu faire un match scénarisé. Vous pouvez trouver ce match sur YouTube. Hein.
Ouais, d'ailleurs là on montre un visuel, c'est un peu brandé comme le premier match de MMA, hein, de l'histoire, parce qu'on a d'un côté une légende de la boxe. Et une légende du catch, puisque même si Inoki, effectivement, comme tu le dis, est fondateur de ce qu'est la New Japan, etc., il est quand même Hall of Famer WWE. Hein, donc, il y a même eu un match, je crois, entre lui et Hulk Hogan, il y a longtemps. Bref, voilà, ça, il a transcendé, effectivement, au-delà du Japon, clairement. Il est devenu une icône de la pop culture, finalement, pour avoir ce match contre Mohamed Ali. C'est un truc complètement fou.
C'est ça, effectivement, on fait pas un match contre Mohamed Ali quand on est Joe Plombier. Donc effectivement, hein, il avait le star power
à la TNA éventuellement, voilà, ça peut arriver.
À la TNA éventuellement, ça peut arriver. Non, non, il avait le star power équivalent à Mohamed Ali et il s'est pas démonté quand on lui a dit, on fait le match pour de vrai. Il a sorti ses talents de catcheur, de lutteur et il a tenu le match jusqu'au bout. C'est quasiment regardable hein, le match, mais c'est quand même un grand moment effectivement du sport en général et de la pop culture en général.
Ouais. Je crois que c'était assez sale d'ailleurs. Il me semble avoir vu un petit truc en me renseignant un peu là pour l'émission que Kinoki a massacré les jambes de Mohamed Ali tout le match hein, pour couper les bases de ce tronc. Donc c'était apparemment très sale comme technique.
Exactement. Il s'est mis par terre sur le dos et il mettait des coups de pied pour empêcher Mohamed Ali de l'attaquer. Et il a fait ça tout le match et ça a fonctionné en quelque sorte, même si c'était pas très spectaculaire pour les gens qui étaient venus. Mais bon, ça reste dans l'histoire. Au Japon, on peut compter quatre grosses fédérations. Vous avez donc la New Japan, vous avez la All Japan Pro Wrestling, la NOAH qui avait été créée par le légendaire Misawa qui avait quitté la All Japan en son temps. Plus récemment, la Dragon Gate créée par Ultimo Dragon, que vous connaissez bien si vous avez suivi la WCW. Et vous avez aussi, plus récemment, une fédération qui a un petit peu explosé, menée par Kenny Omega et Kota Ibushi, la DDT, qui est une espèce de fédération un petit peu frappadingue, qui fait on voit souvent sur YouTube des matchs à coups de feu d'artifice et de trucs un peu complètement barrés.
Ouais, c'est un peu la pro guérilla wrestling japonaise, on peut dire presque.
Voilà, encore en un peu plus foufou.
Encore plus taré, d'accord. Voilà. Avec l'effet Japon en plus, quoi.
Voilà, l'effet Japon en plus, cette espèce d'espèce de comique un peu trash.
What the fuck.
Complètement déjanté. Voilà. Et derrière tout ça, Ibushi et Omega, hein, c'est eux qui ont pas mal fait monter la fédération. Maintenant, ils sont définitivement à la New Japan, comme on va vous en parler. Alors il y a toujours eu des liens avec l'Occident, avec le catch nord-américain. On a toujours eu des catcheurs, les Gaiji on appelle ça, qui ont été sur les cartes de la New Japan, des gros stars même dès le début. Des légendaires catcheurs de la New Japan, vous avez par exemple Carl Gotch, Stan Hansen, le roi de la Lariat. Des mecs comme Rick Rude ont fait aussi de grands moments au Japon, Big Van Vader. Plus récemment, Carl Anderson, Matt Bloom. Vous avez Brock Lesnar aussi, qui a été champion IWGP. Kurt Angle aussi. Les Dudley Boys aussi ont une grosse carrière au Japon. C'était quasiment invaincu tout le long de leur règne. Je me demande s'ils n'ont pas terminé invaincu d'ailleurs. Jeff Hardy avait fait un petit coucou. C'est-à-dire que la New Japan a toujours eu des rapports et des arrangements avec des fédérations nord-américaines, la WWF notamment, la NWA, la National Wrestling Alliance, qui est un peu le concurrent de la WWF pendant longtemps, et puis qui a donné naissance à la WCW, à la ECW. Puis à la TNA également. La TNA également hein, a eu ses liens avec la New Japan à une époque. Hein. On a eu notamment un match Jeff Hardy contre Naito il y a quelques années.
D'accord, dis donc, parce qu'on en avait parlé d'une fois, j'avais vu un match, une archive de la TNA en 2005 je crois, où il y avait donc un tag team match d'un côté Generation Me, qui sont maintenant connus comme étant les Young Bucks, contre Hernandez je crois, un tocard de la TNA, en tag team avec Okada, hein, l'actuel champion poids lourd de la New Japan. Donc ouais, il y a eu effectivement cette espèce d'échange de la TNA qui est passé assez inaperçu, j'ai l'impression quand même. Hein.
C'est surtout que la TNA, t'as beau leur donner de l'or en barre, ils n'en font que du plomb, hein, parce que quand même laisser passer les Young Bucks et Okada, quand même le faire. Hein. Okada, ils l'ont habillé en keto, ils l'ont appelé Keto Kada. Et rouler jeunesse, hein, j'ai envie de dire.
Oh ouais.
Oh yeah. Donc voilà. Et à l'heure actuelle, la New Japan est en réseau, en relation avec aux États-Unis la Ring of Honor, en Angleterre la Revolution Pro et au Mexique la CMLL. Et j'ai même vu qu'ils avaient un partenariat avec la Melbourne Championship Wrestling, je crois, en Australie. Du coup. Donc voilà, il y a vraiment un réseau mondial qui s'est fait, et du coup ça s'échange les catcheurs, ça se fait des shows. Il y en a eu un Global Wars en Angleterre où il y a eu un match là qui a fait vraiment beaucoup parler de lui, un 5 étoiles entre Keith Lee et Tomohiro Ishii dont je vous reparlerai un peu plus tard. Donc voilà, ça aussi, ça génère beaucoup de choses sur le catch dans le monde. Toute la scène indie est soutenue par cette New Japan qui est toujours en feu. À l'heure actuelle, le general manager, on peut dire l'équivalent, c'est Gedo, ancien catcheur par équipe avec Jado et Gedo. C'est celui que vous voyez qui est le manager d'Okada. Si vous avez déjà vu des matchs d'Okada, c'est le petit gars qui a un bandana sur les yeux et c'est ça, ouais. Comment il arrive à voir.
Exactement, il est vraiment très bas, son bandana, c'est... Mais finalement, il a catché. Hein,
Il catche toujours, même de temps en temps.
Ouais.
Et
donc c'est lui qui gère, il a le rôle de general manager à l'écran qui est faible, ou c'est lui qui est aussi d'ailleurs en coulisses?
Non, c'est vraiment lui, d'accord. C'est vraiment lui la matière grise derrière, l'homme de l'ombre. Okada, c'est son projet, et là une grosse partie de la réussite de la New Japan c'est lié à son intelligence, hein, parce que il a fait un boulot extrêmement intéressant et qui fonctionne du feu de Dieu, hein, parce que ça ne cesse de croître, hein, au niveau de la WWE, de la New Japan. Voilà, on voit les réflexes qui ressortent.
Oui.
Alors voilà, donc des Japonais, des catcheurs internationaux, tout ça se fight. Je vous ferai un détail un peu des différences clairement entre ce que vous pouvez voir à la WWE et la New Japan un petit peu plus tard. Là on va s'attaquer au roster. Alors le roster, c'est un peu hiérarchisé, si vous voulez.
Ouais.
Tout en bas de la chaîne alimentaire, vous avez ce qu'on appelle les Young Lions ou les Young Boys. C'est les catcheurs qui sont en formation.
Alors, c'est mieux quand même les Young Lions que les Young Boys, parce que les Young Boys, ça fait nom de boys band, hein, vraiment.
C'est ça. C'est un peu tendancieux, mais si vous entendez parler de Young Boy, vous savez qu'on parle de Young Lions, hein, parce que ça arrive parfois dans les interviews. Si vous vous amusez à écouter des interviews, des shoot interviews, des podcasts avec Chris Jericho, etc. Donc c'est en quelque sorte l'équivalent d'NXT, sauf que ça existe depuis très longtemps. Il y a vraiment une tradition derrière qui est assez lourde, c'est-à-dire que c'est les catcheurs qui vont faire tout le sale boulot, s'entraînent au dojo. Ils montent les rings, vous les verrez pendant les matchs toujours autour du ring à regarder les notes. Alors au début, ils sont dos au match, hein, ils n'ont pas le droit de regarder, ils s'occupent juste de la technique.
Ils sont punis. Non, tu regardes pas le match, t'es pas là pour participer au show. Hein.
C'est vraiment de l'artisanat, quoi, le petit artisan.
Ils ont tous un t-shirt, je crois, ils sont habillés en pareil. Quand ils sont techniciens, ils ont un t-shirt New Japan ou un truc comme ça, un truc super neutre.
C'est ça, exactement, ou un t-shirt du show sur lequel ils participent. Et quand ils sont dans le ring, ils ont un slip noir, des bottes noires, et c'est tout.
Et ils font les openers.
Voilà,
ils font les openers. Moi, quand j'ai vu un show New Japan en live ce printemps au Japon, effectivement, les deux premiers matchs, c'est par des Young Lions, hein, comme dit Ringside. Ils sont habillés exactement de la même façon. Il n'y a rien qui vraiment les différencie. Il n'y a pas de gimmick affiché. Ils sont vraiment, voilà, c'est des lutteurs en formation. Certains qui ont déjà pas mal d'expérience, ou d'autres qui sont vraiment très frais, très verts. C'est assez basique dans le sens où on voit très clairement qui c'est le qui c'est le face. Il n'y a pas aucunement storyline. Voilà, ouais, donc c'est système assez particulier de développement.
C'est ça. Alors, ils font des matchs un contre un quand ils sont déjà là depuis un moment. Ils participent aussi aux nombreux matchs 4 contre 4, ou 3 contre 3, ou 5 contre 5 que vous avez en début de show. C'est eux qui prennent toujours le tombé. Ils gagnent aucun match. Le jour où ils gagnent un match, c'est vraiment que c'est le début de leur push. Donc, c'est vraiment une formation à la dure. Surtout qu'ils vont faire le sale boulot pendant un moment avant de pouvoir catcher. Hein. Mais du coup, quand ils arrivent dans le ring, ils ont déjà une technique qui est vraiment à un niveau très élevé. Donc après ça, ils vont faire une excursion à l'étranger pour aller voir un peu comment que ça se passe dans les autres rosters, dans les autres vestiaires, pas toujours être dans le cocon de la New Japan. Ils font ça à peu près pendant un an. ils reviennent et à partir de là, on leur crée un gimmick et c'est parti pour le pour leur début de carrière. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai commencé en 2015 et là, je vois arriver des anciens Young Lions que je voyais catcher en slip noir qui commencent leur début de carrière avec un gimmick. On a Jay White, on a David Finlay et Roppongi Friké là qui vient d'arriver et qui vient de casser la baraque. Star Power à 200%. Voilà, donc c'est une méthode de formation qui fonctionne particulièrement bien. Sauf quand vous êtes envoyé à la TNA, évidemment.
Donc généralement 2-3 ans, à partir du moment où on voit ces Young Lions faire des matchs en solo et jusqu'à ce qu'ils reviennent rebrandés avec une vraie identité, un vrai gimmick dans le roster principal ou
Ah, du début, là, je pense que ça doit bien prendre 5 ans avant qu'ils finissent vraiment par être des catcheurs gimmickés, on va dire. En parallèle, il y a des shows dédiés aux Young Lions, le Young Project, on en reparlerait un petit peu plus tard. Bon, ça c'est assez difficile à regarder parce que des combats de Young Lions devant peu de public, faut quand même être très motivé, sachant que les matchs qu'ils font entre eux c'est toujours à peu près le même. Hein. Bon, en tout cas, c'est une méthode de formation qui, je trouve, fonctionne mieux que NXT.
En quoi ça fonctionne mieux qu'NXT justement, selon toi? Parce que NXT a son public. Alors, c'est vrai qu'NXT, on se pose toujours la question, est-ce que vraiment c'est toujours le territoire de développement de la WWE ou est-ce que c'est une troisième brand? Mais du coup, ce côté développement seul, pur, qu'est-ce qui, selon toi, fait que c'est plus efficace, que ça marche mieux les Young Lions que NXT?
Déjà, je pense que parce qu'il y a une tradition à la dure.
Ouais.
Qui fait que quand les mecs arrivent, ils sont tellement morts de faim que puis ils ont un niveau technique quand même qui est largement supérieur à ce qu'on peut voir à la WWE. Du coup, je me pose des questions moi sur quel est l'entraînement vraiment à la WWE hormis faire des squats et aller au banc de muscu parce que techniquement ils sont largement au-dessus. C'est assez c'est assez impressionnant.
C'est un peu, j'ai l'impression, ce que tu décris, un entraînement vraiment très spécifique et typique de la mentalité japonaise où tu vas commencer au bas de l'échelon et tu vas taper toutes les tâches, tous les trucs à faire, même les trucs ingrats, les trucs chiants.
Ah, avant ils vont mettre laver le dos des catcheurs plus balèzes qui peuvent pas se laver le dos tout seul, tu vois. Donc c'est vraiment un truc à la d'artisanat quelque part. Et
C'est Karate Kid, hein, c'est wax in wax off avec l'entraînement Miyagi. Non, mais c'est un peu ça, c'est vraiment mentalité japonaise. Ok, on va voir tout le process du début à la fin. Donc c'est moins peut-être le côté de NXT où maintenant la tendance c'est plus. On prend des catcheurs et des catcheuses qui ont déjà une carrière plus ou moins évoluée dans les circuits indépendants et qui viennent à WWE. On repasse une couche, un vernis big league, on va dire. Mais du coup, le bagage technique, tout l'apprentissage est déjà quasiment fait, à part certaines personnes qui continuent à partir de zéro quasiment. Mais la majorité de ce qu'on voit à NXT aujourd'hui, c'est quand même plus de l'importation de talents déjà existants que de la formation pure.
Là, surtout pour faire vivre la brand NXT pour qu'il y ait de la hype et puis qu'on puisse remplir les shows. Hein, parce que c'est vrai qu'après, derrière, au niveau des Young Lions, il n'y a pas d'impératif économique. Et puis il y a peut-être moins aussi de travail d'acting, de promo, parce qu'il y a beaucoup moins de promo à la New Japan.
Oui.
Et donc ils sont peut-être, passent plus peut-être leur temps à faire de la technique. Bon, en tout cas, ils ont une formule qui fonctionne. Et pour la création des stars. C'est aussi ça la réussite de la New Japan. Ça fonctionne beaucoup mieux qu'à la WWE. On se casse pas la gueule avec des Roman Reigns ou des Bray Wyatt là qui fonctionnent pas au final. Hein. On a beau se voiler la face, essayer de tourner ça dans tous les sens, le Roman Reigns ça fonctionne toujours pas quoi. Alors que des mecs comme Okada, ils ont leur champion. C'est la star, c'est le babyface, et il n'y a pas. C'est une décès de puissance. Hein, c'est que c'est. Ils sont gardés le truc un peu plus simple du heel contre le face, et ça fonctionne, quoi.
Est-ce que aussi, pour rebondir sur ce point-là qui est intéressant, le fait que les stars, la construction des grosses stars, comme là tu prends un exemple Okada versus un Roman Reigns par exemple, est-ce que le fait justement que le public, la New Japan, ait vu Okada à l'époque où il était. Alors, lui, il n'était pas Young Lions à New Japan, je crois, mais il a quand même passé des échelons divers. Il a pas débarqué d'un jour au lendemain en étant la méga star.
Il est passé par les Young Lions, c'est clair. Hein.
Donc, du coup, peut-être qu'il y a aussi un attachement l'engouement plus profond du public en voyant ce mec qui était un Young Lions avec son slip noir, ses bottes noires, son t-shirt blanc en bord du ring en train de d'éponger les gros balèzes à la fin de leur match, en train de devenir la méga star qu'il est aujourd'hui. Peut-être que du coup c'est beaucoup plus organique, comme on dit, simplement, que de suite arriver, ok, c'est bon, je suis une famille de Samoans, je suis un gros balèze, believe that.
Il gagne le respect à force de travail et puis bah, ça les pousse à aller toujours plus haut et effectivement le public du coup ne peut que les respecter et être derrière eux et puis c'est comme ça qu'on construit un héros pour les gens. Le respect, on va en parler justement dans la deuxième catégorie puisqu'il y a une catégorie un peu à part. On va voir que ça fonctionne beaucoup au niveau des clans. Mais il y a des gens qui sont sans clan, c'est les vétérans. C'est-à-dire que vous avez une série de catcheurs qui sont là depuis des années, les anciens main eventers qui sont toujours là, qui font souvent les débuts de show, mais qui ont le temps de briller aussi au cours de l'année au niveau des différents tournois qui ont lieu. Alors bon, c'est pas des noms qui vont beaucoup vous parler. Peut-être vous connaissez Nagata quand même, qui était à la WCW pendant un bon moment et qui est très respecté justement de la part du public parce qu'il est resté le main eventer de la New Japan quand elle était au plus bas, quand c'était la galère. Donc maintenant, quand il arrive, il a toujours une pop et bon, il a toujours un catch qui est vraiment très très solide. Hein. Il catch un peu comme Daniel Bryan, malgré qu'il est plutôt jeune. Ces vétérans-là vous sortent des matchs 4 étoiles tranquillement quand même. Hein. Vous avez Kojima, par exemple, qui est encore en bonne forme. Tenzan, on commence à se sentir le nombre des années sur lui, le temps passé, mais il a encore le professionnalisme pour vous sortir des matchs exemplaires. Vous avez Nakanishi qui est lui un peu plus limité dans le ring parce qu'il a subi de lourdes blessures et qui porte le costume des Young Lions parce que lui justement il a quitté à une époque la New Japan un peu en traître. Il s'est blessé, il est maintenant assez limité, mais comme ils sont sympas, ils l'ont fait revenir et en signe de d'humilité, on va dire, désormais il reporte le costume des Young Lions et puis il va faire les openers et les matchs comme ça. Voilà, on le respecte quand même. Donc ça c'est.
Du coup, ces vétérans là, j'entends bien effectivement le concept. Donc c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une faction pour en parler ou est-ce que c'est une sorte de division comme les Young Lions restent entre eux? Est-ce que les vétérans aussi restent entre eux? Non. Ou est-ce qu'ils se mêlent avec le reste? Hein,
ils se mêlent avec le reste, on les voit au tournoi, ils ont toujours l'occasion de briller de temps en temps. Il y a souvent des matchs qui sont faits 4 contre 4, par exemple, entre 4 vétérans et 4 Young Lions, ou une autre faction. Ils peuvent souvent être utilisés comme ça. Maintenant, c'est sûr que c'est pas des mecs qui vont refaire le main event du Wrestle Kingdom.
Okay.
Ils seront peut-être même absents de la carte ou ils vont peut-être juste participer au Rumble, mais avec l'utilisation des tournois, dans les tournois ils auront toujours l'occasion de briller et de nous rappeler à quel point ils sont talentueux. Maintenant c'est pas eux le centre de l'intérêt, mais au moins ça fait des bas de carte qui sont consistantes parce que le public fonctionne toujours quand ils arrivent et ils font toujours des bons matchs quoi qu'il arrive. Alors les autres, on est aussi chez Shin Thunderlager hein, chez les vétérans, mais dans la division Junior Heavyweight. Hein. Vous avez deux divisions.
Ah oui, voilà.
La Junior Heavyweight et la Heavyweight. La Junior Heavyweight, c'est un peu l'équivalent des Cruiserweight. Et on a donc encore Shin Thunderlager qui est encore exceptionnel, qui a fait encore des tournois magnifiques là, cette année. Encore hein, beaucoup de respect pour Shin Thunderlager que vous avez connu à la WCW peut-être. Hein, il est tout en rouge avec un gros masque. Là, on dirait Ultraman.
C'est ça. C'est le Japon. Donc, il y a forcément des composants parfois en termes visuels qui rappellent X-Or, Bioman, Power Rangers. Voilà. Hein, ou alors des mangas. Ou alors aussi Tiger Mask. Hein, qui est,
Tiger Mask qui est toujours là aussi. Tiger Mask.
Qui est iconique. Hein. Moi, j'ai connu Tiger Mask en dessin animé. J'étais très fan du Japon quand j'étais plus jeune. Et notamment, un pote qui parle japonais, qui est traducteur, qui nous montrait un peu des pépites qu'il trouvait. Une fois, ils nous avaient montré, regardez le dessin animé, c'est un dessin animé des années 80-70, c'est un catcheur avec une tête de tigre, c'est super. C'était animé avec les pieds, c'était du catch pendant des heures en manga avec des coups spéciaux, etc. C'était fun, mais c'est Tiger Mask, et donc ce mec-là existe réellement aussi dans le circuit japonais de catch. Hein.
C'est ça, C'est ça. Il y a eu quatre incarnations.
Ouais.
Je crois que c'est Eddie Guerrero, je crois qui avait été aussi Tiger Mask pendant un
D'accord.
moment. Et il y a
Marrant.
une version plus récente, Tiger Mask W, Tiger Mask W, qui était incarné par Kota Ibushi.
Ouais, on a eu un match l'année dernière, il me semble, Wrestle Kingdom. Il y avait Tiger Mask W, Tiger Mask Black ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin.
Voilà, exactement. Contre et il a fait aussi un match Tiger Mask W contre Okada qui était assez exceptionnel. Hein,
Wow.
je vous le conseille.
Ok.
Très très bon match. Bon, on va avancer un peu, sinon on n'a pas
Ouais.
fini. On a aussi donc ce que j'appelle les apatrides. Alors, ça, c'est ceux qui sont pas des vétérans et qui n'ont pas de clan. Ils sont un
D'accord.
peu réunis à l'heure actuelle dans un concept qui s'appelle Taguchi Japon. C'est par rapport à Ryutsuke Taguchi, un catcheur comedy wrestling, un petit peu, bon, qui est quand même capable de vous sortir un grand match sérieux tous les ans. 4 étoiles, 5 étoiles, hein, tranquillement, qui était le partenaire notamment de Finn Bálor à une époque, quand on l'appelait Prince d'Évite, hein, parce que Finn Bálor a une grosse carrière au Japon, c'était aussi un Young Lions, et bah, il a fini par être trahi hein, par Finn Bálor, qui a par la suite justement créé le Bullet Club. Donc c'est un peu sur cette trahison qu'est né le Bullet Club. Alors dedans, vous allez retrouver dans ce qu'on appelle Taguchi Japan, où les gens qui n'ont pas de clan. Il y avait aussi une espèce de clan qui s'appelait avant les Bullet Club Hunter, les gens qui étaient
Oui.
contre le Bullet Club, qui était dirigé par comment s'appelle-t-il? Yoshitatsu,
Ouais,
qui est
Yoshihashi.
Yoshihashi, c'est un autre chez Chaos, mais il y a Yoshitatsu qui était à la WWE à une époque et qui
Oui.
doit être le plus mauvais catcheur de la New Jap.
Ouais, et ils avaient repris un truc aussi. Ils avaient repris DX à l'époque où j'étais voir au Japon. Il y avait une entrée.
Ouais,
Il
ils faisaient
refaisait
l'entrée de Triple
Triple
H.
H avec la bouteille d'eau, etc. T-shirt DX, j'ai marqué Bullet Club Hunter. Enfin, c'est
Ouais,
un peu de rip-off à ce niveau-là, quoi.
c'est ça. Il est assez triste à voir Yoshitatsu. Mais bon, pour l'instant, il n'est plus là. Et donc, ça a été un petit peu remplacé par ce Taguchi Japan. Alors, c'est juste pour la blague. Hein, on a Taguchi qui fait le coach et il fait un peu marcher les autres catcheurs. Alors, on retrouve dedans bah, le John Cena japonais Hiroshi Tanahashi.
Oui.
Vous avez Kushida, l'ace des Junior Heavyweight. Ricochet. On a fait partie, hein, celui qui a un petit peu la hype en ce moment, là qu'on attend son arrivée à la WWE. Là, on ne sait pas si ça va se signer, hein, peut-être le meilleur inférieur du monde. Bon, d'autres catcheurs, notamment Juice Robinson, que vous avez peut-être connu à NXT sous le nom de CJ Parker. C'est plutôt les Babyface hein, qui sont dans ce clan-là. Alors, après, on a un clan de très méchants. Le Suzuki Gun, alors c'est les plus méchants des méchants. Ils font toujours de la bagarre à l'extérieur du ring. On met des coups de chaise. Ils sont dirigés par donc Suzuki Minoru Suzuki de son prénom, qui est un vétéran lui aussi, qui a eu une belle carrière en MMA. Il a un passé de fighter legit.
Alors, ce qui est marrant, déjà, là, pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, il y a finalement un visuel avec le Suzuki Gun et au centre, donc Minoru Suzuki, hein, le leader, qui franchement, quand on regarde comme ça, a pas l'air très dangereux, hein, c'est un vieux mec, je sais pas quel âge il a, il a une espèce
Oui, passer la cinquantaine, je
ouais, il a
crois.
une espèce de coupe vraiment toute bizarre, cheveux rasés à des trous de dents, mais voilà, ils ont vraiment un air loubard, avec des barres de fer, le côté du gang qui va t'attendre à la sortie, etc. Du coup, c'est vrai que lui, il ne fait pas vraiment peur, mais pour l'avoir vu en image, en action, il y a vraiment un côté dangereux qui se dégage du mec, c'est
Ouais, il a
assez
une tête
présent,
de
hein. Ouais.
psychopathe qui fait des grimaces quand il perd un match, il va aller tabasser les Young Lions qui sont autour du ring à coups de chaise. C'est un spécialiste des prises de soumission, donc tout va être fait pour blesser l'adversaire,
Ouais.
faire mal. Beaucoup d'interventions de son clan pendant les matchs. C'est pas concrètement, c'est pas les matchs les plus intéressants à voir, les plus spectaculaires, parce que c'est pas toujours très bien fait. Ces attaques par le Suzuki Gun, mais reste que c'est un excellent performeur, Minoru Suzuki. Il a encore fait un grand match contre Okada cette année, voire deux même. Il est toujours quand même très dangereux. Il détient le championnat Niver, on le reverra, j'en reparlerai ça un peu plus tard. Alors dans ce clan-là, vous avez notamment les champions tag team, le Killer Elite Squad, où vous retrouvez deux anciens de la WWE, Davey Boy Smith Jr. Et Lance Archer, qui s'appelait Vance Archer à la WWE, qui avait été en équipe avec Kurt Hawkins. Il faut s'en souvenir, mais oui. C'est un grand gaillard qui était là. Vous avez aussi Taka Michinoku, l'inventeur du Michinoku Driver, qui était aussi passé à la WWE dans les années 2000, au début des années 2000. Bon, qui est un petit peu fatigué, hein. Il a l'air d'avoir un peu mal au dos, mais bon, il est toujours rigolo. Et vous avez Zack Saber Jr., que vous avez vu au Cruiserweight Classic, l'espèce d'étudiant en maths, là, qui a un physique de cycliste, mais qui est un torsionnaire en devenir, hein, puisqu'il est un spécialiste des prises de soumission. Donc c'est un peu l'élève de Minoru Suzuki pour torturer un peu les catcheurs. Bon, il y a d'autres, il y a encore d'autres personnes. Alors à la WWE, les clans c'est souvent 3 personnes.
Oui.
La New Japan, ils sont beaucoup plus nombreux, hein, souvent 6 ou 7.
Ouais, là l'image de Suzuki-gun qui est à l'écran en ce moment sur YouTube, on voit 9 personnes, 9 gaillards patibulaires. Ouais, voilà. Donc ouais, c'est côté clan effectivement WWE, du coup souvent c'est 3, genre le Shield, le New Day, on va avoir un peu plus Absolution récemment, 4 ouais, comme l'Evolution, voilà. Etc. On a rarement des gros trucs. Peut-être que le Nexus était une des rares dans l'histoire moderne, ouais, récente du catch, exception, qui ressemble plus à ce qu'est un clan aujourd'hui à New Japan, j'ai l'impression, où vraiment, à chaque fois, c'est 6 types au minimum, quoi. Ouais, c'est vraiment un gros gang qui débarque. Et du coup,
Shelton Benjamin, on avait fait partie aussi. Voilà, alors après, ils étaient partis à la Noah. Parce que la Noah était en difficulté financière, donc ils ont envoyé le Suzuki Gun sauver la Noah, parce qu'ils sont sympas comme ça au Japon. Et ouais, ils se font des petites aides comme ça, ils se donnent des petits coups de main. Mais bon, Chetan Benjamin n'avait pas suivi lui à la Noah. Bon, maintenant il est de retour à WWE. Voilà, donc ça c'est le Suzuki Gun. On va passer au clan du champion IWGP, Okada. C'est le clan Chaos, qui avait été formé par Shinsuke Nakamura, qui en était longtemps le leader jusqu'à ce qu'il parte pour la WWE. Désormais, c'est Okada qui dirige le clan. Donc son manager, comme je vous ai dit, c'est Gedo, le manager directeur. Voilà, l'homme de l'ombre de la New Japan. Vous avez Tomohiro Ishii, le meilleur catcheur du monde, peut-être.
Le catcheur, le nom le plus compliqué à prononcer au monde.
C'est vrai. Voilà. J'ai mis du temps à l'apprendre, mais je le tiens presque bien. Voilà, si vous avez l'occasion de regarder des matchs de Ishii, il faut pas vous gêner. Il fait que des bons matchs. C'est l'adversaire parfait pour n'importe qui. Il met en valeur tout le monde. Il a un selling incroyable. Il est rapide. Par contre, malheureusement, il est pas très glamour, hein. C'est un petit gros qui a pas de nuque, qui ressemble à un petit pitbull, hein. Le Stone Pitbull, c'est son surnom. Vous avez aussi Trent Barreta, qui est dans cette équipe, Beretta, comme il l'appelle à la New Japan, qui était aussi passé à la WWE à une époque, et qui est peut-être un des catcheurs les plus sous-estimés à l'heure actuelle. Ouais. Il vient de passer en
heavyweight.
En heavyweight, hein. Il a été longtemps chez les junior heavyweight, souvent en tag team avec Rocky Romero. C'est Roppongi Vice.
Oui.
Et là, maintenant, il passe en heavyweight et il a fait un match exceptionnel contre Kenny Omega là, il y a quelques semaines. Je vous conseille de voir ce match. Ouais. Il est vraiment exceptionnel. Là, hier soir, ils sont en train de faire en ce moment donc le tournoi tag team. Il y a eu encore un match, alors vraiment exceptionnel entre lui, avec son acolyte Chuck Taylor, Chucky T, donc qui a aussi rejoint le clan Chaos, qui est un pilier du catch indépendant aux États-Unis depuis une bonne décennie. Ils ont affronté Michael Elgin, ancien champion de la Ring of Honor, et Jeff Cobb, qui est le monstre Matanza Cueto à la Lucha Underground, qui est un catcheur exceptionnel. Ils ont fait un match fantastique. Si vous voulez voir un mec faire un power slam et une power bomb en même temps sur deux personnes, c'est dans ce match-là. Des souplesses avec chandelle où on se passe le gars de l'un à l'autre, même dans le public si vous voulez, c'est pas grave. Voilà, il faut regarder ce match. C'est dans le tag team classique là qui est en cours. Je vous reparlerai un peu de ce tournoi un peu plus tard.
Okay.
Voilà, Chaos le clan un peu leader.
Il me semble qu'à l'époque où elle a été créée, comme tu disais, par Nakamura, par Shinsuke, c'était une faction qui était heel. Aujourd'hui, elle est face. Du coup, pareil, petit aparté, mais très rapide. Justement, par rapport à cette notion de heel et de face, du point de vue de quelqu'un qui regarde la WWE, est-ce que New Japan c'est plus ou moins similaire ou est-ce qu'il y a quand même des différences majeures sur ces alignements en fait?
C'est assez basique, heel contre face.
Ok.
Pendant longtemps, le grand babyface de la compagnie c'était Tanahashi. Il a eu une longue rivalité avec Okada, qui était du coup heel. Et du moment qu'Okada a battu Tanahashi, il est devenu face. Et il y a d'autres clans qui sont arrivés, qui étaient du coup les nouveaux clans heel, comme on a vu Suzuki Gun. Et là, on va le voir, Los Ingobernables Der Japón. Voilà, une fois qu'il y a un clan qui s'assagit, qui devient gentil, ben, il y a un nouveau clan de méchants qui est plus irrespectueux. D'accord. Avec un nouveau concept et qui vient devenir le nouveau méchant, bah jusqu'à ce que je pense. Peut-être il passera, ils vont passer du côté obscur s'ils arrivent, enfin du côté clair plutôt, sauf si Okada lâche pas l'affaire. Parce que les règnes de, quand on a un champion, on le garde pendant longtemps. Hein. À la New Japan, oui. Tanahashi, il est resté peut-être une dizaine d'années au top. Mm-hmm. Et c'est que le début pour Okada, hein, j'ai envie de dire. Voilà, alors pour le clan Chaos, donc Los Ingobernables de Japón, ça c'est le clan qui a le vent en poupe.
Ouais, les ingouvernables pour ceux qui ne parleraient pas espagnol.
C'est ça, exactement. Tetsuya Naito qui est le plus grand heel actuel du monde, dirige ce clan. Alors les gens qui sont dedans, ça vous parlera pas trop.
Il y a du bon.
Il y a du bon. Il y a Evil. Vous avez Sanada. Evil et Sanada qui seront peut-être sûrement les deux main eventers du futur. Vous avez Takahashi, Hiromu Takahashi, qui est fantastique. Ibushi, qui est aussi bien sympa. Donc, ça, c'est le nouveau clan Hill qui est en montée. Tetsuya Naito donc, va affronter Okada à Wrestle Kingdom. Donc, c'est un clan de sales gosses, un peu les teenagers, post-teenagers en crise. Je déteste la société. Je m'en fous de la vie des autres, mais je vais quand même passer 3-4 heures devant mon miroir pour me maquiller. Je vais m'acheter des fringues assez classe.
Ils ont quand même un look assez inquiétant. Il y a pas mal, effectivement, à l'envoi de l'image, notamment ouais, Sanada. C'est ça, Sanada et Evil qui ont une faux, une grosse batte, des masques de mort, etc. Il y a notamment des vidéos promo qu'ils avaient fait avec une espèce de déformation de caméra où on voyait vraiment les visages déformés. Enfin. C'est des sales gosses, mais qui sont quand même heal. On n'est pas là pour rigoler et prendre des selfies non plus, quoi.
Voilà, c'est le genre à torturer les chats en douce. voilà, on a Takahashi qui est un peu bizarre sexuellement, enfin bizarre, voilà, entre guillemets, quoi. Ouais. Qui fait des scrapbooks où il raconte un peu sa tristesse. Et puis Naito qui est le sale gosse qui crache sur tout le monde, qui moleste les arbitres, les commentateurs, etc. C'est un truc qui fonctionne très bien, même quand vous parlez pas japonais, vous les voyez arriver, vous comprenez tout de suite que c'est des petits connards et puis ils font le show.
Ouais, d'ailleurs moi ce qui m'a pas mal marqué c'était Naito qui était à mon champion intercontinental hein, à New Japan, qui arrive avec sa ceinture en la faisant traîner par terre et la lance en l'air et elle retombe dans le ring mais un peu salement, il s'en fout complètement. C'était voilà, ça démontre bien un peu l'attitude générale de ces ingouvernables du Japon. Alors eux c'est inspiré des ingouvernables donc mexicains hein, c'est ça hein, ça
t'écrit d'abord. Mexicains voilà qui avait été lancé par
la Sombra.
Andrade Cien Almas, la Sombra. Mais ça fonctionne beaucoup mieux au Japon que au Mexique. Bon ça reste une faction un peu main eventer à la CMLL. Mais le vrai succès, finalement, il a été fait au Japon avec Naito et compagnie. D'ailleurs, il ferait bien de s'en inspirer, effectivement, pour Andrade, pour le rendre peut-être plus intéressant. Parce que voilà, hein, par exemple, ce Naito qui balance sa ceinture, toi, quand tu étais au Japon, que tu parles le japonais ou pas, ça fonctionne.
Oui. Alors d'ailleurs, ça, c'est un truc qui est parti très rapide. Hein. C'est vrai qu'un des gros freins qu'on peut se dire en tant que fan de catch américain, avant de sauter le pas et de regarder une Japan, c'est la barrière du langage. On se dit, ok, on parle pas japonais ou pas suffisamment bien. Alors, deux choses à savoir, c'est que pour les gros shows, les gros pay-per-view, il y a des commentateurs anglais, donc du coup, on peut comprendre et suivre ce qui se passe, mais aussi c'est qu'il y a quand même moins, en général, de ce que je peux voir et lire, beaucoup moins de storyline déployée en termes d'interaction, de promo, de discussion backstage à la New Japan qu'à la WWE. Donc finalement, beaucoup d'informations passent par l'attitude, passent par le comportement dans le ring, durant les matchs, avant les matchs, après les matchs, et pas tellement par rapport aux histoires qui se racontent pendant des heures en backstage.
Exactement, exactement. Parce que l'essentiel des promos, c'est des conférences de presse après coup. Et quand il y a un nouvel aspirant qui veut une place, bah, il vient simplement montrer sa trogne au sortir d'un match. Ouais. Soit se fout sur la gueule un petit peu, soit pas, mais on n'a pas besoin de comprendre grand-chose pour dire qu'il vient chercher son title shot.
Parce qu'une des plus grosses différences, je trouve personnellement, entre la New Japan et la WWE, c'est que pour la New Japan, pour eux, le catch, la lutte, c'est ils mettent ça en avant, pas vraiment comme un divertissement, mais comme vraiment une compétition sportive. Donc d'où le côté des conférences de presse après les gros matchs, avec les logos partout et les flashs et photographes comme on voit dans le foot, comme on voit en Formule 1 et tous les autres sports. Et voilà, pas tellement par le côté pas tellement comme le côté soap opera, série télé, feuilleton qu'on va avoir à la WWE. Donc ça, c'est une grosse différence, et ce qui fait aussi que les performances dans le ring sont beaucoup plus stiff, hein, comme on disait sur le chat, hein. C'est vrai que le style New Japan, c'est côté strong style, hein, ce qu'on donne aujourd'hui à la WWE, à Nakamura. Bon, bah, ça vient le strong style de la New Japan, hein, donc du coup, c'est ça. C'est vraiment dans le ring que l'histoire se passe, plus que au backstage.
Voilà. C'est pas le même produit, et c'est ça qui est bien, parce que du coup, on peut aimer les deux, il n'y a pas de souci, et c'est vraiment complémentaire, et on n'est pas, pas blasé de l'un ou de l'autre, puisque il y en a pour tous les goûts, hein, au final. Alors, bon, on va avancer dans ces clans. Le Bullet Club.
Attends, pardon, c'est le Bullet Club 444 Life.
Alors, c'est le clan qui fonctionne le mieux au monde. Explosion de vente de t-shirts. Fondé par Finn Balor, donc à l'époque, qui s'appelait Prince Devitt, Fergal Devitt, accompagné de Bad Luck Fale et Tama Tonga, Carl Anderson. C'est à peu près ça au début. Donc il est parti à WWE, Finn Balor. AJ Styles a repris la direction des opérations.
Ouais. Et lui aussi, Gallows, hein, aussi.
Le Gallows est arrivé par la suite, effectivement. Vous avez tous les fils de Haku ou Bing, si vous souvenez, avec le Barbarian, les Faces of Fear. Tama Tonga, Tonga Loa, qui était Camacho à l'époque à la WWE. Vous avez récemment, comment s'appelle-t-il, Léo Tonga, qui est arrivé, le troisième fils, mais bon, qui est encore un peu green, hein, donc on le verra pas souvent. Il y a deux parties dans le Bullet Club. Vous avez le Bullet Club du bas, comme on vient de parler là, et vous avez quelque chose de plus sérieux, qui est The Elite, avec rien que moins que les Young Bucks, donc la tag team la plus extraordinaire du monde, qui est aussi à la Ring of Honor, qui est pilier de la Pro Wrestling Guerrilla, qui fait du pognon à crever, qui traverse le monde, qui a toujours des files d'attente de 1 km pour venir faire signer des photos. Vous pouvez trouver leurs vidéos sur YouTube, Being the Elite, une série toutes les semaines, un nouvel épisode complètement barré, on rigole bien. qui est un peu le truc vraiment cool dans le catch en ce moment dans le monde. Vous avez Kenny Omega, le plus grand performeur actuel, peut-être le meilleur catcheur du monde. Vous avez Cody Rhodes, qui débarque de la WWE, l'homme qui a fait exploser les succès de la Ring of Honor. Hein,
qui est le champion actuel de la
Ring of Honor. Voilà, champion actuel, exactement. Hangman Page, un peu moins connu donc de la Ring of Honor. Et Marty Scurll, l'anglais, qui vient d'exploser là, cette année sur la scène internationale. The Villain, qui a son petit parapluie.
Le vilain. Ouais, donc il y a aussi Adam Cole, qui est passé Bullet Club avant de rejoindre NXT pour Undisputed Era. Et il y a aussi un japonais, puisque Bullet Club, la particularité, c'est que dès le départ, le concept, c'était effectivement tous les occidentaux, les îles occidentaux qui se réunissaient. Et donc, il y a quand même un japonais, le Pimp, le
Mac. Tokyo
Pimp. C'est ça, Tokyo Pimp, qui était chez Chaos avant et qui a trahi Chaos pour aller au Bullet Club, si j'ai pas de bêtises.
Exactement. Il s'appelle Takahashi aussi. Voilà, j'ai plus son prénom. Yujiro ouais. Takahashi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc désormais, depuis que AJ Styles est parti, c'est Kenny Omega le patron. Il y a une petite guerre intestine en loose day avec Cody Rhodes pour savoir qui est vraiment le patron. Ça, vous le retrouvez dans Being the Elite. Vous voyez un petit peu les manigances de Cody Rhodes, c'est assez hilarant. Ils ont failli intégrer Flip Gordon de la Ring of Honor récemment, mais si vous avez vu le dernier épisode de Being the Elite, il a été recalé au dernier moment, le pauvre. Et il n'a même pas pu garder son t-shirt. voilà, bon, allez voir Being the Elite, c'est un des trucs les plus cool.
Ouais. Alors après Being the Elite, et j'ai l'impression que c'est assez représentatif de ce qu'est le Bullet Club aujourd'hui, c'est très sur l'humour, sur les blagues effectivement, et donc du coup, on le voit même dans les shows récemment, le Bullet Club aujourd'hui, est-ce qu'il est pas plus face que heel? Ça c'est une question un peu ouverte, je pense que ça en prend la direction, alors qu'au départ, sous l'égide donc de Baylor, et qui était reprise après par Size, c'était un clan heel qui a causé des crises de larmes et de nerfs chez les spectateurs japonais, un truc de fou. Je fais une digression très rapide. Finn Balor qui était dans un podcast avec Jericho et qui expliquait un peu les genèses du Bullet Club. C'est très intéressant, je vous recommande d'écouter. Et il expliquait que du coup, à New Japan, pour être face, c'est assez facile quand t'es occidental et que tu fais de la virevolte. Tu vas donner dans le ring, tu vas faire des 450, des machins, des Phoenix Splash dans tous les sens. Tu vas te dire quelques mots en japonais, les japonais vont être super contents de voir un occidental faire l'effort par les japonais. C'est bon, tu es face. Par contre, pour être heel, c'est compliqué parce qu'ils parlent pas japonais. Donc du coup, ils se sont dit, ok, on va faire quelque chose, on va prendre toutes les techniques des heels les plus pourris qu'on a aux États-Unis, les mettre effectivement à la japonaise en faisant des gros monologues en anglais. On mettrait tant d'idiots parce qu'ils peuvent pas parler anglais. Et ça a bien marché. Ils étaient ultra dans la triche tout le temps, même quand il n'y avait pas besoin, ils trichaient. Ils étaient ultra violents. Moi, iconographiquement, j'ai des images du Bullet Club de cette époque où ils ont tabassé des gens dans le ring. Ils sont KO, ses adversaires. Ils prennent leur tête, ils lui mettent le doigt comme ça sur la tempe en forme effectivement de flingue. L'image est assez violente, notamment la fois où Finn Balor défie Okada pour le titre. Et Okada qui fait sa pose comme ça, un peu christique. Et Finn Balor qui arrive et qui le braque comme ça, juste contre son torse. Enfin, l'image, elle est forte. Il kidnappait des gens backstage en leur mettant des sacs sur la tête, un peu en mode terroriste. Enfin, c'était... Et l'anecdote rigolote, c'est que à New Japan, il y a un numéro de téléphone où les spectateurs peuvent appeler pour dire « Bah ouais, le show était bien, ah, je veux commander un t-shirt, etc. » Et en fait, il y avait tellement d'appels de spectateurs qui appelaient pour se plaindre des triches et des agissements heel du Bullet Club qu'à une période, il y a eu une personne engagée à temps plein à la New Japan juste pour gérer les coups de fil des gens qui appelaient pour se plaindre des agissements du Bullet Club. C'est énorme. C'est énorme.
Énorme. Voilà, on voit que ça fonctionne toujours, le kayfabe au Japon. Ouais, mais il faut dire que c'était... Alors maintenant, c'est vrai qu'ils sont assagis, le Bullet Club, c'est plus pour la rigolade. Mais au début, quand ils sont arrivés, forcément, c'était le nouveau clan heel. Donc, ils faisaient que des actions dégueulasses comme ça. Effectivement, ils ont perturbé pas mal de matchs, passé à tabac des catcheurs dans tous les sens. Et quand ça passe à tabac au Japon, ça passe méchamment à tabac. C'est très stiff. Et c'est vrai que le Finn Balor, concrètement, les débuts du Bullet Club, ça se rapproche plutôt de The Miz que d'autres choses, tu vois. Un mec bien traître avec son clan, qui va tout faire pour gagner. Bah, quitte à pourrir des matchs, alors que c'est vrai qu'à la New Japan, on est vraiment sur un truc sportif. Hein, donc, les tricheries, les choses comme ça, c'est quand même assez rare. Voilà. Et c'est surtout, c'est assez rare pour que quand ce soit utilisé, ça fonctionne. Et bah, voilà, bah, ça a fonctionné avec le Bullet Club, donc qui était effectivement tous les gaijin rassemblés, reprenant les gimmicks de la NWO, de DX, etc., recyclés. Et puis au fur et à mesure, ils ont ajouté leurs choses personnelles. Voilà, Season Desist, hein, ça c'est interdit, maintenant c'est comme ça. Voilà, ça a un peu fait criser la WWE cette année, parce que ça commençait à prendre un peu trop d'ampleur, peut-être, enfin, on sait pas trop. Mais tout ça, au final, ça fait de la pub pour les Young Bucks.
Ouais.
Qui sont numéro un des ventes sur tous les sites de t-shirts. Voilà, ils ont une marchandise de folie. Donc voilà, le Bullet Club qui est plus le clan le plus heel de la New Japan.
Ouais.
Voilà, on va y arriver. Puisque Kenny Omega, bon, il est quand même censé être méchant, mais il est maintenant vachement populaire, donc c'est un petit peu délicat. Mais de toute façon, il va quand même sortir les meilleurs matchs. Et puis, comme on le sait, il va affronter Chris Jericho pour le Wrestle Kingdom, donc l'alignement. Ça va être plutôt un Kenny Omega gentil contre ce prétentieux Chris Jericho qui croit venir donner la leçon aux Japonais, même s'il est quand même assez populaire au Japon, hein, Chris Jericho. Voilà, donc là, on a fait le tour des clans. On va s'attaquer aux titres, les titres et les champions. Il y a beaucoup de ceintures à la New Japan. Alors, il y a deux types de ceintures. Il y a les ceintures Never et les ceintures de la WGP, l'International Wrestling Grand Prix. On va commencer par les championnats Never qui sont un peu plus bas.
Alors, ce championnat Never? Never Open. Never.
Qu'est-ce que c'est? Never Open Weight, on appelle ça maintenant. Au départ, c'était juste Never. Alors, Never, c'est qu'on appelle ça un acronyme, c'est ça?
Oui.
Ça veut dire New Blood, donc du 109, Evolution, Valiantly, Eternal et Radical. En fait, c'était un petit peu aussi l'équivalent d'NXT. Au départ, c'est une ceinture qui devait servir aux nouveaux talents. Il devait y avoir des shows exclusivement Never et ça devait être que des jeunes qui devaient s'affronter voilà, pour mettre une ceinture, mettre un peu la valeur d'NXT, pour mettre en valeur des nouvelles stars montantes. Ça a été très vite abandonné et désormais, c'est une ceinture qui serait plutôt équivalente du championnat US chez nous.
D'accord.
Donc actuellement le champion Never c'est Minoru Suzuki, hein, donc le leader du Suzuki Gun, voilà, qui a gagné la ceinture contre Hiroki Goto, qui est le grand le loser magnifique de la New Japan, qui a failli être main eventer mais ça n'a pas collé, donc maintenant il est souvent le mec qui va perdre mais de manière flamboyante.
Du coup, est-ce qu'on aura un match entre lui et Kurt Hawkins pour savoir qui c'est le plus grand loser magnifique du catch mondial?
À voir. Ah, il est plus comme Ziggler, tu vois.
D'accord. Okay.
Il va se la donner, mais il va pas gagner. Mais bon, c'est aussi un très bon catcheur. Moi, j'aime beaucoup Hiroki Goto. Donc voilà, ça c'est le championnat Never Open Weight. Vous avez aussi donc un autre championnat Never qui est le Never Open Weight Six Man Tag Team.
Donc
ça, c'est du catch Six Man, 3 contre 3.
Ouais.
C'est un championnat qui est assez récent. Le Never, ça date de 2010. Never Open Weight, c'est encore plus récent. Je crois que ça date de l'année dernière, peut-être, à tout casser. Donc ça, c'est du catch à 3. Alors ça sert surtout pour mettre des ceintures sur des gens, voir un peu comment ils tiennent avec une ceinture, quoi. Ça change souvent de main. C'est rare que ça dure plus d'un mois, un règne sur ce championnat là c'est actuellement détenu par les Los Ingobernables de Japón,
Sanada, Bushi et Evil.
Voilà, donc ceux qui ont le titre à l'heure actuelle, ça devrait pas tarder à changer de main. Voilà, comme ça on teste un petit peu les jeunes, comment ils tiennent avec une ceinture, qu'est-ce que ça donne. C'est pas non plus le championnat le plus intéressant, mais ça a le mérite d'exister. Alors, on va parler maintenant de l'International Wrestling Grand Prix. Donc il y a deux divisions, les Junior Heavyweight et les Heavyweight. Donc évidemment, il y a un championnat Tag Team Junior Heavyweight, qui est actuellement détenu par Roppongi 3K, Cho et Yo, Je vous en avais parlé un petit peu. Eux, c'est de Young Lions qui viennent de revenir. Ils ont gagné le championnat contre. Alors, ça s'appelait Funky Weapons, justement. C'était Taguchi Japan, Ricochet et Taguchi qui étaient ensemble. Une belle équipe. Mais le premier soir où ils sont arrivés, Roppongi 3K, ils ont pris le titre. Et dans la foulée, ils ont gagné un tournoi Tag Team Junior Heavyweight. Donc, ils se sont imposés tout de suite. Ils ont frappé fort dans l'année. Roppongi 3K, c'est les remplaçants, si vous voulez dire, si vous voulez, de Roppongi Vice. Ils sont managés par Rocky Romero. Et donc, ils ont repris flambeau de Roppongi. Ils font partie de la team du clan Chaos. C'est deux excellents catcheurs. Je pense qu'il y a un gros avenir pour les deux. Hein. Ça devrait.
Pour l'instant, ils font un peu boys band avec des coupes de cheveux à la con et les couleurs. C'est ça, voilà. C'est des jeunes. Parce que Roppongi, c'est dans son culture, c'est un quartier de Tokyo très connu pour sa vie nocturne et donc beaucoup de clubs, beaucoup de bars. Voilà.
Voilà, voilà. Donc là, c'est effectivement gimmick de nightclubber. Mais alors, par contre, dans le ring, ils déroulent et je pense qu'ils vont passer en heavyweight à un moment donné et qu'ils devraient aller assez haut dans la carte. Et ils sont très très populaires en plus parce que c'est un peu des beaux gosses, hein. Donc oui. Ça fonctionne aussi. Il y a beaucoup de filles dans le public de la New Japan, hein.
Ouais.
Donc ça c'est une chose aussi.
Je l'ai vu en live effectivement par rapport à un show WWE, la portion féminine est plus présente, ça c'est clair, et beaucoup plus vocale. Alors c'est très.
Exactement.
Elles donnent de la voix de façon un peu kawaii, c'est rigolo, mais ouais, elles sont là.
Donc ça fonctionne toujours bien, les beaux gosses. Alors, dans le Junior Heavyweight IWGP, vous avez aussi donc un championnat solo, hein, qui est détenu actuellement par Marty Scurll, l'anglais, hein, qui a explosé, hein, sur la scène internationale là, cette année.
The Villain. Membre du Bullet Club et de l'élite, comme tu disais.
Voilà, carrément. Il est rentré dans l'élite tout de suite, dans The Elite. Si vous voulez, il a un peu un gimmick façon pingouin, l'ennemi de Batman, hein, ouais. Que façon Tim Burton, quoi. Hein. Il a un grand manteau à fourrure, un chapeau, un masque comme avaient les médecins à l'époque de la peste,
ouais.
Et un parapluie. Et bon, il a un catch à l'anglaise, hein, British Strong Style. Il a gagné le titre sur Will Ospreay, un autre anglais qui fait partie du clan Chaos, pardon, qui est Will Ospreay, peut-être le meilleur high flyer actuel à mon goût. Ils se connaissent bien parce qu'ils sont affrontés souvent en Angleterre, hein, à Progress et à d'autres, un peu toutes les fédérations anglaises fonctionnent bien aussi en Angleterre, hein, le catch à l'heure actuelle. Ils ont fait un très beau match pour le club, quasiment la première accession au titre, enfin un championship de Marty Scurll. Et à la surprise générale, c'est Marty Scurll qui a gagné. On est parti pour un Fatal 4-Way pour Wrestle Kingdom entre Ospreay, Kushida et Takahashi. C'est les 4 meilleurs cruiserweights du monde, hein. Donc il faut s'attendre à du lourd. On en reparlera sur la carte, quand on fera l'émission de pré-show. Mais ça annonce du très très lourd. Voilà ce qu'il y en est pour la WGP Junior Heavyweight.
Et donc du coup, juste pour venir, ceux qui sont dans le circuit comme ça junior, au bout d'un moment, ils vont potentiellement, sur leur succès, évoluer vers la section heavyweight, parce qu'on l'avait vu à l'époque, Kenny Omega, hein, qui avait été annoncé, lui, en Bullet Club, le cleaner, le nettoyeur de la section, la division junior. Il avait été champion, et puis à un moment donné, un peu comme Finn Balor avant lui, s'était tourné, disant « Ok, pour moi, les juniors, c'est terminé, je vais la course, la chasse pour le titre poids lourd. » Donc du coup, c'est vraiment storyline, c'est en fonction de le junior. Il marche bien, il est populaire, on est content de ce qu'il fait dans le ring et il se comporte bien avec la ceinture, donc on va le mettre dans le rang pour rejoindre la division poids lourde. C'est comme ça que ça se passe.
Voilà, si physiquement c'est possible. Si vraiment le mec est trop petit, il va rester malheureusement chez les junior heavyweight.
Et c'est parce qu'on sait, à WWE, on nous dit c'est 205, hein, c'est 205 pounds.
Limite de poids aussi, mais
parce que voilà, quand Finn Balor était champion de junior et qu'après il est parti à la chasse du titre d'Okada pour le heavyweight, bon, il a pas pris 15 kilos d'une semaine sur l'autre, donc c'est pareil pour Omega.
Le physique s'affine aussi. Ils prennent quand même de la masse musculaire pour passer en heavyweight, pour être crédible, tout simplement, face à des mecs qui sont plus costauds qu'eux. Maintenant, je ne suis pas sûr que la limite de poids, elle soit vraiment fixée. Après, il y a des mecs, clairement, par exemple, Kushida, est clairement plus petit. Ça, c'est assez difficile pour lui d'aller en heavyweight à l'heure actuelle. C'est pas impossible qu'il y passe finalement. Ils avaient Justin Funderlager par exemple et voulait rester lui en junior heavyweight. Il l'avait forcé à passer en heavyweight, ça n'avait pas fonctionné. Il y a des gens qui sont peut-être pas faits pour passer en heavyweight aussi, c'est subtil. Voilà, un mec comme Kenny Omega, effectivement, lui il a pu passer en heavyweight. Ouais. Parce qu'il a un physique un petit peu qui est entre les deux, quoi. Mm-hmm. Donc, on a par exemple Zack Sabre Jr. est considéré comme un heavyweight.
D'accord, pourtant qu'il est.
Il est comme ça.
Hein. Ouais, ok.
C'est assez drôle de voir d'ailleurs haranguer la foule. C'est qui le heavyweight maintenant quand il a gagné contre Tanahashi au G1 Climax.
Qui est super balèze, Tanahashi. Physiquement, ouais. Il est.
Voilà, c'est ça.
C'est du Cena.
Exactement.
Du The Rock, même, on peut dire.
Exactement.
Heavyweight.
Heavyweight, on a les tag team actuellement Killer Elite Squad. Donc je vous en ai parlé le Davey Boy Smith Jr. et Lance Archer, donc deux gros gaillards du Suzuki Guns qui trichent, qui trappent fort, qui crachent sur la foule. Voilà, bon, on les verra au Tokyo Dome. Je pense qu'ils vont affronter les gagnants du tournoi tag team qui est en cours là. Normalement, les mecs qui gagnent devraient avoir un shot au Wrestle Kingdom. Donc voilà, deux anciens gaillards de la WWE qui sont plutôt des mecs qui tapent fort. Hein.
Ouais.
Alors, on a ensuite un championnat tout récent, l'IWGP US Championship, qui a été déterminé cette année, hein, si je dis pas de bêtises, dans leur show aux États-Unis. Premier show aux États-Unis de la New Japan, on le verra après. Premier plan d'attaque de la New Japan pour conquérir le monde. Kenny Omega, évidemment, est le champion. Ça, vous le savez, il a gagné contre Tomohiro Ishii. Hein, parce que si on veut faire une belle finale, on l'a fait avec Ishii, il n'y a pas de raison. Donc voilà, Kenny Omega, le meilleur catcheur du monde. La ceinture a été faite pour lui, hein, pour qu'il fasse un petit peu se pavaner avec la ceinture à l'international. Vous avez ensuite l'IWGP Intercontinental Championship, qui est un championnat assez récent puisque ça date de 2011. Mai 2011, le premier champion, tenez-vous bien, c'était MVP. Vous vous souvenez d'MVP à la WWE, Montel Vontavious Porter. Donc voilà, croyez-le ou non, c'était lui le premier champion intercontinental dans un tournoi qui avait eu lieu aux États-Unis. Justement, ils avaient fait un show à l'époque, en 2011, mais ça n'a pas eu le succès escompté. Nakamura a redonné du prestige au titre, hein, puisque ça a fait la défense de titre de Nakamura avait fait le main event du Wrestle Kingdom en lieu et place du championnat heavyweight. Ce qui a créé d'ailleurs un petit peu le début de la haine entre Naito et compagnie, et Okada aussi et Tanahashi. Vous avez eu notamment la Sombra qui a été champion intercontinental, donc Andrade Cien Almas a tenu le titre pendant un moment. Et à l'heure actuelle, il est tenu par le vétéran Tranquilo. Le titre est tenu actuellement par Tanahashi, le vétéran. John Cena, américain, qui lâche pas sa place quand même. Hein. Il lui faut une ceinture quand même, sinon ça va pas. mais un excellent catcheur, hein, Tanahashi. Hein, c'est mérité, sa position. Mais
il a quel âge?
Ah, je sais pas, il vient de la quarantaine tout doucement. On sent qu'il joue un peu des politiques derrière. Là, par exemple, pour le climax, il était blessé au bras, soi-disant, pour expliquer qu'il n'a pas gagné le tournoi. Quoi. Mais,
d'accord, il a 41 ans.
41 ans.
Ouais. Voilà. Donc du coup, c'est un peu effectivement vraiment l'analogie avec Cena, elle est pas volée, hormis le physique, hormis qu'il a été face toute sa carrière ou quasiment toute sa carrière, ouais, et des concepts de l'espoir et l'amour triomphera toujours. Hein, c'est un peu ça. Il fait l'air guitare pour avoir l'air cool. Et donc du coup, il fait un peu des politiques aussi en arrière-plan.
Voilà.
C'est un peu ça a été le poster boy pendant très 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 longtemps la New Japan. Donc vraiment cette analogie est assez justifiée. Ouais.
Exactement. D'ailleurs, c'est un dream match, hein, Tanahashi contre Cena, si on pouvait l'avoir un jour. Ce serait exceptionnel. Bon, voilà, donc ça, c'est détenu par Tanahashi. L'IWGP Heavyweight Championship, donc le championnat ultime tenu par Kazuchika Okada depuis plus d'un an. Il a gagné en juin 2016 le titre sur Naito. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, il a eu une longue rivalité avec Tanahashi. Il a vraiment eu du mal à venir à bout de l'Ace. Et désormais, c'est lui le champion. Et on est dans un run un peu à ce qu'on avait dans les années 80. Si vous voulez un comparatif, un WWE avec un Hulk Hogan, quoi. Hein, ce qui était déjà le cas avec Tanahashi avant. Mais ça fonctionne comme ça au Japon, à la New Japan. Quand vous avez un champion, c'est pas champion pour rien. Non seulement, déjà, c'est le meilleur catcheur du roster. Parce que quand il faut faire un match, il y a peut-être que Kenny Omega qui est au niveau. Il y a quand même un cran au-dessus, hein. Okada, Tanahashi aussi. Et Omega, c'est vraiment les meilleurs catcheurs du monde. Naito en dessous. Et quel est le quatrième? Bon, alors là, j'ai oublié. Mais c'est quand même un petit cran en dessous. Donc, c'est vraiment les meilleurs performeurs. D'ailleurs, quand vous avez un show, il n'y a pas vraiment de show stealer. Le concept de show stealer n'existe pas trop. C'est vraiment le main event qui va être le meilleur match de la soirée.
D'accord, c'est clair, c'est établi.
Voilà, clair, net et précis, quitte à limiter les autres catcheurs. Bon, il y a Ishii aussi qui est vraiment un très très grand performeur, mais comme je disais, il est moins glamour que les autres. Donc effectivement, il aura toujours un petit peu le rôle ingrat du mec qui se fait battre et qui sera jamais dans le main event. Main event, il y a beaucoup moins de place à prendre qu'à la WWE, beaucoup moins d'opportunités.
Ça tourne moins forcément si les champions restent pendant longtemps et que la hiérarchie du brio des matchs, cette absence de show stealer est là, forcément ça laisse moins la place à des gens de middle card ou de middle top card de percer et de voler le show, effectivement, tout simplement. Ouais.
C'est ça.
Ça c'est clair.
mais,
Hein. Et
mais quand on
Okada,
a
d'ailleurs. Ouais, vas-y, ouais.
quand je dis quand on a un champion, le champion IWGP Heavyweight, finalement, il est babyface. Ce que t'as pas à la WWE, c'est toujours un mec qui est heel qui va devenir champion et qui va peut-être tourner face à un moment donné dans son règne. On a du mal à avoir ce champion babyface.
Quand même, à moins que ce soit des grosses stars ultra établies comme Cena, chopent des titres en restant face, Orton aussi par exemple, Reigns l'a déjà fait et va le refaire très probablement. Voilà,
S'il est à moitié hué par la foule, Cena c'était le cas aussi.
Ouais,
Okada il est pas hué. Okada quand il arrive c'est la star. Si,
récemment.
il va peut-être hué dans le match quand il va commencer à catcher comme un salaud parce qu'il voit qu'il
Il est
galère
en
un petit peu.
difficulté, ouais.
Ils font ça aussi avec Kushida. C'est pour montrer que le mec est poussé dans ses derniers retranchements.
Ouais.
C'est dans l'histoire du match, mais ils ont ce talent quand même de créer des babyface que malheureusement on a un petit peu perdu à la WWE. C'est voilà, ça c'est la différence qui fait que peut-être on arrive à avoir des champions qui sont plus crédibles. On va passer d'ailleurs aux grandes différences entre les deux. Donc comme tu le disais, hein, on a déjà évoqué le point, c'est présenté comme un sport, le catch au Japon. Le public y va un peu comme au théâtre. Il n'y a pas de chant à la con comme on a à la
Non.
fin à la con. Voilà, on va pas
Oui.
hijacker le match.
Non, il y a des chants, c'est-à-dire qu'il y a forcément les supporters, on peut entendre des Kenny! Quand
Voilà.
effectivement les gens sont... J'ai beaucoup entendu ça, des jeunes filles qui criaient Kenny Omega de façon assez sobre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas voilà, des chants qui vont commencer. Le public va pas récupérer, hijacker le show, va pas prendre plus de place que ce qui lui est dû normalement. C'est pas la même ambiance, ça c'est clair. Il y a un
C'est ça.
respect pour ce qui se passe et une interaction, mais elle est beaucoup moins vocale qu'à la WWE. Ce qui d'ailleurs, on peut lire, hein, différents catcheurs qui racontent les premières fois, ils ont américains qui sont allés catcher au Japon. Ils étaient en stress ou en flip quasiment tous parce qu'ils disaient merde, je dois faire vraiment de la merde dans le match parce que je provoque aucune réaction, j'entends
C'est
pas
ça.
le public. Et c'est juste que c'est le style aussi du catch japonais, c'est le style du public japonais où il va moins se faire entendre qu'un public américain.
Ouais.
Tout
Par contre,
simplement.
beaucoup d'applaudissements. Et on sent que les gens suivent beaucoup plus le match que à la WWE aussi, peut-être parce que ce qui est raconté dans le ring est peut-être mieux ficelé, plus simple à comprendre. Mais donc, ça marche beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup le public japonais parce que quand même, au bout d'un moment, quand le match dure longtemps, que ça commence à être vraiment serré, que les mecs sont au bout du bout, le public, là, il va commencer vraiment à se réveiller et à pousser le match. Et ça donne souvent des ambiances qui sont assez extraordinaires. Du coup, bien plus proche du sport que... Bon, après, c'est difficile maintenant aussi au niveau du public américain qui est toujours sur son smartphone, etc., etc. Donc, il faut aussi prendre ça en compte à la WWE, dans le sens où c'est déjà plus dur de lever les foules comme on pouvait le faire dans les années 90. Hein. Les gens n'ont pas forcément... la capacité à se focaliser sur un match pendant 20 minutes quoi. On a beaucoup moins de soap opera, donc quasiment pas d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, donc c'est un challenger qui veut se présenter, ben il va au ring, il se présente, ou alors quand vous avez des matchs à 4, à la fin du match, ça va aller se foutre sur la gueule entre deux personnes. Ils vont faire ça le long d'une road où ils font plusieurs fois le même match, ou un petit peu légèrement différencié comme ça, parce qu'il y a beaucoup de matchs en début de carte qui sont des 4 contre 4, 3 contre 3, ce qui évite de cramer les oppositions single trop rapidement, hein. Qui explique pourquoi vous avez des rivalités qui durent sur 4 ans aussi, hein, parce que quand ils s'affrontent une fois dans l'année peut-être l'un contre l'autre, il n'y a pas de show weekly, hein, c'est que des événements comme des pay-per-view, hein, finalement.
Ouais, des shows, des pay-per-view, hein. C'est vraiment ça.
Ouais, voilà, exactement. Il n'y a pas beaucoup de matchs gimmickés, pas de matchs féminins, pas de match. Il y a eu un match de l'échelle il n'y a pas si longtemps, mais finalement, c'est deux Gaijin qui l'ont fait, hein, parce que c'était Elgin contre Omega. Il y en a peut-être eu un deuxième Elgin Naito, je crois. Mais alors, c'est tout. Hein. Sinon, c'est que des matchs standards. Alors, après, le gros problème, c'est l'arbitrage. Qui est assez folklorique. Hein.
C'est particulier.
Une fois, déjà, quand on est à l'extérieur du ring, sachant que le décompte va jusqu'à 20 et pas à 10 comme à la WWE, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ça se met des coups de chaise, ça met tout ce que vous voulez. L'arbitre, soit il fait semblant de ne pas voir, mais alors il n'a pas forcément de raison d'être distrait, mais il va être distrait quand même, on ne sait pas pourquoi. Visiblement c'est porte ouverte quand on est là. Alors ça peut être dérangeant quand on regarde le match pour la première fois, parce que ça peut nous sortir du match carrément, hein. Donc ça, il faut bien en tenir compte quand vous arrivez. L'arbitre, ils expliquaient ça dans les commentaires anglais, c'est-à-dire que les gens viennent voir deux gens se battre, ils viennent pas voir une décision d'arbitrage. Donc c'est pour ça peut-être que c'est plus léger, mais des fois c'est vraiment trop mal fait, souvent avec le Suzuki Gun, quand il y a des interventions, quatre mecs qui arrivent, c'est souvent un petit peu léger. Donc voilà, il y a très peu de disqualifications. Les ref bumps, c'est toujours assez mal fait.
De toute façon, le Suzuki Gun, quand tu les regardes comme ça, t'as pas envie de les disqualifier, hein, quand t'es arbitre. Hein.
C'est ça, parce que
ils vont venir, ils vont brûler ma maison, prendre ma famille en otage, ça va pas être cool.
C'est ça, tu vas pas sortir de l'immeuble. Mais c'est ça aussi, l'histoire des, quand t'as des clans qui sont de 6-7 personnes, tu dis que tu pourras pas sortir de l'immeuble.
C'est ça.
Ou du stade. Alors vous avez aussi donc tous les Young Lions qui sont autour du ring, donc ça il faut pas vous inquiéter si vous les voyez. Vous avez une sortie pour les gagnants, une sortie pour les perdants. Attention, faut pas qu'ils se trompent. Et donc bah oui, donc un catch beaucoup plus stiff, les gens peuvent dérouler tout leur arsenal. Il y a peu de, ils sont pas bridés, hein, comme on dit. Et donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de show stealer, ils vont être bridés dans le sens où ils vont faire un match qui est moins impressionnant que le main event. C'est toujours le main event qui va être le meilleur match quoi qu'il arrive, ce qui fait que ça fonctionne plutôt bien, parce que tu regardes un show, alors c'est vrai que...
C'est balisé, tu sais que tu as un crescendo montant en puissance, voilà, des matchs.
Alors quand tu vois qu'il y a un match en début de carte qui est très très cool... Eh ben, tu dis que c'est bien parti, parce que c'est que ça va être forcément encore mieux après. C'est vraiment, ça arrive rarement que c'est l'effet inverse. Même si maintenant, on a les junior heavyweight qui sont en début de carte, qui sont vraiment très très bons, les meilleurs du monde. Donc parfois, ça arrive quand même que tu aies un match junior heavyweight qui va être peut-être un peu plus impressionnant que la suite, surtout quand ils font des shows qui sont divisés en trois. Alors ça, on va y aborder ça maintenant, parce qu'on arrive à la dernière partie, les grands événements.
Oui.
Donc il y a 8 gros rendez-vous qui sont gérés donc présentés par la New Japan. Ça commence tout de suite en janvier avec le Wrestle Kingdom, hein, qui est au final le show le plus impressionnant de l'année.
Deuxième show de catch au monde après WrestleMania en termes de public. Hein. On avait regardé effectivement en termes d'attendance. Hein, c'est le deuxième show au monde, donc c'est assez impressionnant.
C'est ça.
Ils avaient réuni l'année dernière, ça se passe toujours au Tokyo Dome, hein, le plus gros stade de Tokyo.
Les gens
de
Tokyo Dome. Mm. Et oui, effectivement, on avait regardé, on était à 15 000 personnes peut-être.
L'année dernière, non, plus que ça, on était à un peu plus de 26 000 personnes.
26 000, voilà.
Alors, à l'échelle, hein, c'est sûr que par rapport à un WrestleMania, c'est bien en dessous, mais c'est plus gros que. Je crois qu'il y avait qu'un seul pay-per-view, il y avait eu un Royal Rumble, on avait regardé, qui avait plus de monde que le Wrestle Kingdom, mais sinon, voilà, c'est toujours le deuxième plus gros show. Non, je sais pas les chiffres pour WrestleMania, combien il y avait de personnes, mais bon, c'est 75 000 personnes le dernier WrestleMania, donc c'est quand même trois fois plus. Hein. On n'est pas à la même échelle, mais voilà, pour dire le fossé qui existe entre le WrestleMania et le reste. Le premier 75 000 personnes, le deuxième show 25 000, donc.
Mais bon, ça va en croissant.
Ouais.
À New Japan à l'heure actuelle.
Extrême gros show, donc des entrées fantastiques au Wrestle Kingdom, plein de feux d'artifice qu'on ne voit plus quasiment à la WWE.
C'est ça.
Le Tokyo Dome, c'est
particulièrement bien fait.
Ouais.
Parce qu'après, c'est vrai que sur les autres shows, au niveau de la production, de la réalisation, on est quand même largement en dessous de la WWE. Hein. C'est moins léché. Vous n'avez pas de parterre lumineux, il n'y a pas tout le ring customisé, tout ça. On est un petit peu près au niveau de ce que faisait la WWE à la fin des années 90, début 2000. C'est un peu plus roots, mais ça va. Bon, je pense qu'ils vont finir par investir un peu plus. Après, il faut savoir qu'ils n'ont pas une production New Japan télévisuel comme à la WWE. La WWE, non. Elle a un cahier des charges avec sa propre réalisation. C'est pas le cas pour la New Japan qui passe souvent par la chaîne de télé qui va retranscrire le show. C'est elle qui va filmer la chose, quoi.
C'est la grosse différence aussi de la WWE, qui a des shows weekly qui du coup a un staff en interne, et la New Japan qui n'a pas de weekly, qui a plutôt des shows mensuels ou plusieurs fois dans le mois, mais du coup n'ont pas attitré une équipe qui va bosser 7 jours sur 7 hein, sur la production du visuel. Ouais. Mais il n'empêche qu'on a quand même des intros aussi fabuleuses, hein, malgré tout ce que tu dis. Ouais, c'est Kingdom, il y a vraiment du gros show qui est fait, des trucs tournés pendant 5 minutes. On se rappellera l'année dernière, le petit film, court-métrage d'Omega avant son entrée qui était très bien. Là, on se rappelle, je montre pour la vidéo sur YouTube, une entrée de Nakamura quand il était champion, qui est juste fabuleuse, où il est en très 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 bonne compagnie, hein, Shinsuke, de cette vidéo. Mais voilà, il y avait tout un truc avec une expression. Où vraiment là on voit le charisme que ce mec peut avoir. Il y a une fois il était avec une couronne géante sur la tête aussi. Bref, ouais, il y a des moyens qui sont mis pour faire des grosses entrées, même si c'est pas le niveau de production de la WWE. Ça n'en reste pas moins le deuxième show de catch le plus couru au monde, et il y a quand même effectivement du spectacle à ce niveau là
Tokyo Pimp qui arrive avec 3 stripteaseuses par exemple, ça aussi c'est une entrée qui vaut le coup. Mais c'est vrai que ça c'est réservé pour le Wrestle Kingdom, c'est un peu moins vrai pour les autres gros shows. Alors vous avez des gros shows par exemple King of Pro Wrestling qui sont comme un pay-per-view, et vous avez maintenant des shows qui ont été divisés en 3. Alors ce qui fait que les cartes sont un peu plus légères. Vous pouvez regarder que les main events sur ces shows-là, vous gratterez pas grand-chose. Ça dilue un petit peu l'impact que peut avoir les pay-per-view. Mais bon, c'est pas le cas par exemple sur le Wrestle Kingdom qui arrive. Ça, c'est un show que vous pouvez regarder en entier. Alors, hormis peut-être la Battle Royale du début de show, où on va caser des légendes et des choses comme ça. Ça, ils savent pas trop faire au Japon. C'est assez moche à regarder. Vous pouvez zapper et passer à l'opener, hein, parce que c'est une battle royale où on peut à la fois passer la personne par-dessus à la troisième corde ou faire un tombé. C'est un peu n'importe quoi et c'est assez mal booké généralement.
Chiant.
Voilà, c'est assez ridicule. C'est assez moche. Alors, vous avez aussi des shows qui sont en partenariat, par exemple avec la Ring of Honor, les Global Wars. No Rising, des choses comme ça, War of the World, Fantastica Mania aussi avec la CMLL. Fantastica Mania, ouais. Faut aimer la lucha.
C'est ça.
Des shows Lionsgate Project avec les Young Lions. lucha. Voilà, ça c'est les gros rendez-vous. Il y a 8 gros rendez-vous en gros, hein, tout au long de l'année. Et on a surtout les tournois.
Oui.
C'est là que se fait toute la saveur de la New Japan, puisque on va casser les clans. Tout le monde va s'affronter, tout le monde va affronter tout le monde. On va avoir les vétérans qui vont pouvoir sortir des gros matchs, des affrontements qu'on pensait pas avoir, des jeunes qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu à la surprise générale. Alors, vous avez par exemple la New Japan Cup. Donc ça c'est élimination directe. Donc le dernier gagnant, Katsuyori Shibata, qui malheureusement a pris sa retraite. Sa retraite, on ne sait pas trop. Hein. Il a fait un match contre Okada où il a eu une belle fracture hématome crânien. Et on ne sait pas trop quel est l'avenir pour lui. Mais donc ça, c'est déjà un tournoi qui est assez intéressant. Et vous avez surtout le G1 Climax. Moi, c'est avec ça que je suis rentré dans la New Japan. Donc ça, c'est un tournoi qui est très long. Hein. Il doit y avoir une vingtaine de journées. À chaque fois, 5 matchs à peu près qui sont liés au tournoi. Bloc A, bloc B. Une finale du bloc A, une finale du bloc B. Et là, vous avez que des mecs qui se donnent à 100%. Ça se passe sur juillet-août. Le dernier gagnant, c'était Tsuya Naito, qui avait affronté Kenny Omega. Match exceptionnel, un des matchs de l'année. Donc ça, là, c'est vraiment... si vous voulez rentrer dans la New Japan, hormis le Wrestle Kingdom, c'est la chose, si vous voulez voir vraiment faire le tour du roster, comprendre un peu qui est qui, voir quels sont les talents et surtout voir des putains de matchs, parce qu'il y a quasiment rien à acheter hein, dans ce tournoi-là, même ouais. Si il y a énormément de journées.
Après, c'est long, c'est ça. C'est gros. Ça. Vous pouvez trouver sur Internet facilement des récaps, hein, des résumés. Mm. Je ne sais plus combien il y a de matchs au final, mais c'est énorme. Par contre, l'intérêt que j'y vois, moi, en tant que spectateur hardcore la WWE par rapport à New Japan, c'est qu'effectivement, c'est un tournoi de 1 contre 1 uniquement, là où le New Japan fait beaucoup de matchs par équipe ou par faction. Donc, on voit des gens de la même faction s'affronter, donc ça peut être intéressant, on peut développer une sorte de psychologie dans le match qui est pas mal, et aussi ça fait des résultats un peu inversés, c'est-à-dire que habituellement sur n'importe quel match de la carte, vous allez avoir un power ranking établi de puissance des catcheurs, où on va savoir très forcément entre un tel et un tel s'il y a un gros écart de niveau qui va gagner, alors que pendant le G1, vu que c'est un championnat, un tournoi qui est très long, eh bien, du coup, il y a beaucoup d'aléas qui peuvent venir changer le résultat et on a des surprises. Hein. Okada, qui est le champion incontesté depuis assez longtemps, tu dis, a perdu contre des mecs qui sont pas de son calibre, en fait.
Exactement.
Et du coup, ça a pu déclencher derrière des rematchs, hein, notamment avec Bad Luck Fale de Bullet Club il y a quelques temps, où il avait gagné lors du G1 contre Okada. On estimait que c'était plus ou moins un coup de bol, on ne sait pas. Et Bad Luck Fale a poussé le truc en disant « Eh, maintenant, je veux un match de titre, j'ai montré que je pouvais te battre. » Donc voilà, ça permet de pouvoir un peu rebalayer les cartes, même si c'est pendant des programmes courts, au moins, il y a des surprises, en fait. C'est pas plié d'avance sur le résultat des matchs. Et ça, c'est intéressant.
C'est ça, parce que tout se joue au point, hein. C'est pas d'élimination directe. Donc il y a moyen de, au niveau du scénario, de monter des choses, voilà, comme tu l'as expliqué là avec Bad Luck Fale. Par exemple, le gagnant du tournoi, il a pu accorder une défaite ou deux peut-être à d'autres catcheurs. Donc ces mecs-là, au sortir du tournoi, ils vont dire mais moi je t'ai battu pendant le tournoi, donc c'est parti, on va régler nos comptes après. C'est à chaque fois les gens se battent pour les points, ce qui donne vraiment une saveur au match et de l'enjeu qui permet de sortir des trucs à chaque fois. On comprend pourquoi les mecs vont jusqu'au bout, quitte à la blessure, etc. Puis on voit le temps aussi faire son effet, hein, puisque c'est très long, y a ça se blesse, il y en a qui sont diminués, et ça met du suspense à tous les étages. Donc ça, c'est vraiment. En août, c'est un peu un bonheur hein, pour les gens qui suivent la New Japan. Alors, vous avez l'équivalent du G1 Climax pour les Junior Heavyweight avec le Best of Super Junior qui a été gagné par Kushida cette année. Donc ça, c'est pareil. Hein, ça fonctionne au point aussi, mais c'est avec les Junior Heavyweight. C'est aussi un tournoi vraiment très, très, très classe. vous avez aussi des grosses performances. La Super G-Cup, donc ça c'est tournoi à élimination directe, mais aussi chez les Junior Heavyweight, qui a encore été gagné par Kushida. Et vous avez cette particularité qu'on invite des catcheurs d'autres,
fédérations, ouais.
D'autres fédérations. Bon, ça arrive aussi sur le Best of Super Junior et sur le G1 Climax. Hein. L'année dernière, vous aviez Maru Fuji qui était là, qui avait fait des matchs exceptionnels contre Okada. Maru Fuji qui a été à la TNA, là, à Impact Wrestling récemment, ils n'en ont rien fait du tout. C'est quand même lamentable. Donc en ce moment, vous avez le tag team classique. Oui. Qui est en cours, donc l'équivalent du G1, mais pour les tag teams. Bon, ça c'est. Je suis en train de regarder en ce moment. Vous avez ce problème sur New Japan World que c'est beaucoup de matchs sont filmés en plan fixe.
Oui, ils ont eu qu'une caméra. Parfois.
Voilà, qu'une caméra.
Ça c'est compliqué.
Ça limite un peu l'achemont. Ouais. Ça donne l'impression d'être dans le public. Ça c'est rigolo, mais.
Mais bon, on n'est pas dans le public, donc c'est moins rigolo.
Voilà. C'est moins rigolo.
Mais voilà, c'est pas le mode de production habituel à New Japan. Hein. Voilà. Si vous regardez Wrestle Kingdom, vous allez avoir une multicaméra. Enfin, voilà, c'est vraiment que pour certains événements, des petits tournois annexes comme celui-ci, on n'a qu'une caméra. Sinon, ça reste quand même effectivement une bonne valeur de production.
C'est ça. Si vous tombez dessus, soyez pas étonnés. Donc voilà, les gagnants, bah, ils vont gagner un shot pour le titre Heavyweight normalement au Kingdom, ce qui est le même enjeu au G1 Climax. Le gagnant du G1 Climax a un title shot pour le Wrestle Kingdom face au champion. Donc c'est quand même un grand enjeu. Après, c'est pas dit que le mec qui gagne le G1 Climax va quand même aller au Kingdom, au Wrestle Kingdom. Il peut perdre son shot entre temps. Ça c'est déjà vu. Faut pas croire que ça tue le suspense dès la fin du G1 sur ce qui va se passer sur la suite. Hein.
Ouais, donc c'est pas vraiment l'équivalent à la victoire au Royal Rumble, qui normalement on ne peut pas la perdre. C'est pas non plus la mallette Money in the Bank, puisqu'ils ont une mallette à la fin du G1 classique, hein, si je raconte, enfin, un climax, c'est si ça. J'ai pas de bêtises. Hein,
d'ailleurs, donc, Naito s'amuse à acheter à chaque fois sur un package pour lui faire mal, ça c'est drôle.
Donc, du coup, ils peuvent se voir se faire voler ou perdre la mallette, et donc, du coup, l'opportunité au cours d'un match, au cours de.
Voilà, exactement. Hein, je lance un défi, on joue la mallette et puis, puis ça peut se jouer comme ça. Effectivement. Ouais. Donc le suspense reste entier même après le G1 Climax. Voilà, donc c'est sûr qu'en ce moment, c'est le tournoi tag team, c'est un peu le ventre mou. Mais alors, encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai regardé hier soir, je suis tombé sur ce match-là, Elgin et Cobb contre Best Friends, ça s'appelle Chuck T et... Chucky T et Beretta, et c'est exceptionnel. Il est vraiment très bon ce match, allez le voir. Oh là là, j'étais soufflé. surtout que celui-là était filmé vraiment normalement.
D'accord. Hein,
il y a quelques shows comme ça qui sont quand même filmés en entier, du début à la fin. Sinon, c'est juste les matchs du tournoi qui sont là. Alors, tout ça, vous pouvez le voir sur le New Japan World.
Ouais. L'équivalent du network pour le New Japan.
C'est ça. Qui techniquement fonctionne beaucoup mieux que le WWE Network et qui est moins cher, parce qu'on est en dessous de 9 euros, je crois qu'on est dans les 8 euros et quelques, voire peut-être moins. Et vous avez accès à tous les shows de la New Japan, les archives, les promos. Alors, ils commencent à sous-titrer les promos aussi.
D'accord.
Donc voilà, c'est vraiment pas cher pour quelque chose qui est vraiment au niveau du contenu très 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 intéressant, plutôt un bon investissement. Moi, je dis par mois. Vous avez ça et le network de la WWE, vous êtes bien si vous aimez le catch. Surtout que le Kingdom arrive.
Ouais, ça c'est effectivement le prochain rendez-vous, hein, comme on vous le disait au début de la vidéo. Là, l'intérêt de cette vidéo que vous venez de regarder, d'écouter, etc., donc c'était de vous donner toutes les clés de compréhension pour comprendre le style et un peu le microcosme de New Japan, hein, ce fonctionnement de faction, les grosses différences. Et donc, la prochaine vidéo qu'on vous fera avec la Mirroring Size, c'est du coup passer au crible, une sorte de pré-show du Wrestle Kingdom, donc un peu avant début janvier, puisque c'est toujours le 4 janvier. Donc on passera la carte au détail pour vous déterminer, bah, vous définir toutes les rivalités, tous les enjeux. C'est quoi un peu l'historique, comme ça vous aurez tout en main et en tête pour pouvoir apprécier ce show qu'on sait qui sera fabuleux. Déjà à l'avance, ça va être effectivement assez exceptionnel.
C'est vrai, on trépigne d'impatience. Hein.
Oh
Je
ouais.
n'en peux plus d'attendre.
Bah écoute, mon bon Ringside-sama, merci énormément à Arigato gozaimasu pour toute cette connaissance. Merci à ceux qui étaient sur le chat, qui ont posé quelques petites questions, qu'on a répondu comme ceci. Si vous avez des questions, des sujets qu'on n'a pas traités dans la vidéo, dans ce podcast, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo YouTube. On passera régulièrement les voir et vous apporter des réponses complémentaires. D'ici là, bah du coup, Catch Up, ça continue toujours sur la WWE, hein, avec Catch Up rouge pour Raw, bleu pour SmackDown, les pay-per-view, les gros shows, le 2K18 de Hank, etc. Et donc on vous donne rendez-vous pour New Japan un peu avant début janvier pour donc cette vidéo consacrée au gros show, au gros prix show de Wrestling Kingdom 12. Merci encore Ringside.
Merci. Allez gros gâteau.
Allez gros gâteau à tout le monde. Et du coup ben on vous dit à très très bientôt. Salut.
Ciao ciao.